Stereo, stereo, calango, stereo, calango.
Ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs du studio Kalangou. Il est 18h, Rukayat Abdrahman pour cette édition. Voici les titres. Les étudiants de l'université de Niamey et le personnel des Nations Unies au Niger unis ce matin à Niamey pour donner du sang au centre de transfusion sanguine. Un geste humanitaire à l'occasion de la journée des Nations Unies célébrée il y a quelques jours. La Deutsche Welle forme des journalistes de ses radios partenaires du Niger à Niamey sur des thématiques en lien avec le journalisme sensible au conflit pour mieux les outiller face aux reportages difficiles. Les précisions dans un instant. À Agadez, des bras valides vivent de petits métiers évitant d'emprunter la voie chaotique de la migration. C'est en partie magazine de cette édition. Bonsoir à tous. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey et le personnel des Nations Unies au Niger ont donné volontairement leur sang ce matin dans l'enceinte du campus universitaire. Selon Begou Ramatou, communicatrice au Centre national de transfusion sanguine, au moins 100 poches de sang seront collectées au cours de cette journée. Elle est au micro de Tanane Foudé Ahmed.
La représentante des Nations Unies qui est ici au niveau de Niamey a pris contact avec le Centre national de transfusion sanguine pour organiser une collecte de sang pour mobiliser en tout cas tous les agents qui travaillent pour les Nations Unies et les étudiants à venir donner du sang. Le choix de l'université Abdou Moumouni n'est pas fortuit. Comme vous savez, l'université elle regorge beaucoup de gens et de jeunes aussi parce qu'en matière de transfusion sanguine, plus le donneur est jeune, plus on compte avoir un sang simple.
Combien de poches de sang comptez-vous avoir?
Aujourd'hui, on avait prévu de prélever quelque chose de 150 poches, mais vu la situation de la journée, il y a la chaleur, il y a aussi les problèmes de malaise. On va arrêter la collecte à partir de 100 poches.
La kamikaze Emna Gebla, 30 ans, qui a déclenché sa charge lundi en milieu de journée en visant une patrouille de police, était diplômée et au chômage, a indiqué à l'AFP le parquet antiterroriste tunisien. Titulaire d'une licence en anglais des affaires, mais non identifiée comme extrémiste par la justice, a précisé le porte-parole du pôle antiterroriste Sofiane Sliti. Selon des médias tunisiens, elle n'avait jamais trouvé d'emploi dans ce secteur, mais travaillait parfois comme bergère pour aider sa famille. 20 personnes, dont 15 policiers et 2 adolescents, ont été blessés dans cette attaque, la première à secouer la capitale tunisienne depuis 2015. Dimanche, le gouverneur de la région de Diffa a signé un arrêté pour allonger d'une heure le couvre-feu en vigueur. Ainsi, les piétons pourront désormais circuler de 5h du matin à 23h, soit une heure de plus alors qu'il était fixé de 5h du matin à 22h. Laouam Boukar, notre correspondant local, a recueilli quelques avis des piétons en partie soulagés. Écoutons-les.
C'est une joie pour nous quand nous augmente une heure de plus par rapport à l'heure de l'état d'urgence. On a une heure de liberté encore.
C'est ce qu'on attend depuis longtemps. Nous nous sommes battus pour ça, donc on veut plus que ça.
En tout cas, on est fiers avec ce temps-là. Vraiment, cette augmentation que l'état a fait, vraiment, on est beaucoup satisfait sur ça. On veut qu'il augmente encore sur le tricycle, encore pour au moins 1h30 ou 22h comme ça. Ça va nous permettre de travailler parce que maintenant, si tu comptes, on est plus nombreux maintenant. Maintenant, on est plus de 300 et quelques. Et puis, le temps qu'on travaillait avec les autres régions, vraiment, c'est carrément différent.
Préparer des journalistes des radios partenaires de la Deutsche Welle au Niger sur des sujets de reportage risqués, le langage journalistique sensible au conflit et donner aux participants des connaissances, des attitudes et des astuces pour leur permettre de faire face à des reportages difficiles, c'est l'objectif visé par la formation qui se tient depuis hier à Niamey. D'autres précisions avec Abdoulaye Ouattara, un des formateurs au micro de Gungu Mamadou Dantani.
Cette formation concerne un groupe de médias partenaires de la Deutsche Welle à prendre part à cette formation et à 12 journalistes qui participent à cette formation. Pour cette formation, il s'agit donc du reportage risqué. Dans notre métier, il y a des sujets de reportage qui sont difficiles à traiter et surtout la question liée aux élections. Nous avons voulu préparer nos collègues journalistes également. Nous parlons beaucoup plus le langage journaliste sensible au conflit, donner à ses participants des connaissances, des aptitudes, des astuces pour les permettre de faire face à des reportages difficiles pour que, lorsqu'ils sont face à ces situations, qu'ils puissent produire des reportages de qualité en prenant en compte tous les protagonistes et en faisant un travail professionnel. Pendant les 5 jours, nous avons la partie théorique, mais nous avons aussi une partie pratique. Les participants vont aller sur le terrain, ils vont produire des émissions qui vont nous permettre d'apprécier la qualité du travail.
Le procureur général d'Arabie Saoudite s'est rendu ce mardi au consulat de son pays à Istanbul dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, selon une correspondante de l'AFP sur place. Hier lundi, selon la chaîne de télévision turque TRT, le procureur saoudien a demandé à son homologue istanbouliot, lors de leur entretien, de partager l'intégralité des éléments qui figurent dans le dossier d'enquête turque, mais sa requête a été rejetée. Toujours selon TRT, le procureur turc a questionné les autorités saoudiennes sur la localisation du corps de Khashoggi qui reste introuvable près d'un mois après le meurtre. Selon la presse turque, le corps a été démembré par les agents saoudiens. Le paiement de l'aide sociale, des bourses et allocations, la normalisation des années académiques dans les universités publiques du Niger, objet des préoccupations de la structure scolaire du Niger. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériennes, CDUSN, l'a fait savoir ce matin à Niamey à travers une déclaration publique. Écoutons Mokhtar Ahmad Hamani, le secrétaire chargé à la presse du CDUSN, au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
La question d'aide sociale, qui est censée être décantée depuis la fin des vacances de l'année passée, semble connaître aujourd'hui une déstabilisation légendaire. Le gouvernement qui a pris l'engagement ferme et semble traîner par rapport à ses décisions et par rapport à ses engagements. Autre question aussi, c'est la question de la bourse troisième trimestre et la bourse des vacances. Aujourd'hui, nous sommes en octobre. Or, la question de la bourse troisième tranche devrait être payée depuis la fin de l'année passée. Donc, ce qui semble être le contraire, aujourd'hui, nous sommes en octobre.
Et pour ce qui concerne les allocations, plus particulièrement dans la région des Maradi où les élèves été sorti les 2 dernières semaines pour manifester.
Et c'est une première fois en tout cas de l'histoire des allocations du Niger que le gouvernement a failli. C'est le paiement de troisième tranche qui n'a pas été payé à Maradi et à Dosso. Jusqu'aujourd'hui, le 30 octobre, cette question n'a pas été décantée. Donc la section USN de Maradi a pris l'engagement ferme de pouvoir défendre ses intérêts.
Dans cette sortie médiatique, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens donne un ultimatum de 15 jours au gouvernement à partir de ce jour pour solutionner les problèmes qui minent le système éducatif nigérien. Le 20 octobre dernier, le gouvernement nigérien a signé un accord avec l'intersyndicale des travailleurs ITN. Le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire estime que ce n'est pas sérieux car les points discutés sont vieux, dont l'un depuis 6 ans et que la partie gouvernementale n'a pris aucun engagement. Cheikh Boudambaji est au micro de notre reporter Omar Hama.
Le premier point porte sur la mise en œuvre de ces accords-là. Parce que pour l'essentiel, les engagements forts, et l'ITN l'a dit dans l'accord, tournent autour de l'apurement des arriérés des agents de l'État et du régime indemnitaire et créer les conditions pour qu'il n'y ait plus d'arriérés. Ce qu'on remarque, ces mêmes points ont été évoqués par l'ITN et dans le point d'accord, le gouvernement, tout en n'ayant rien fait pour mettre en œuvre ces engagements, dans le point 1, il ne prend aucun engagement. Lorsqu'on prend un engagement, 6 ans après qu'on vienne parler du même engagement, ça ne nous paraît pas du tout sérieux. L'autre point important est relatif à la révision du salaire minimum intergaranti, SMIG. Donc, c'est une vieille revendication. Maintenant, pour le reste, les discussions vont avoir lieu avec les autres parties, notamment le patronat, parce que le SMIG concerne le patronat et l'État. Donc, là aussi, le gouvernement ne prend aucun engagement. Il renvoie les discussions au niveau du Conseil national du travail.
Conclusion ce matin à Niamey de la mission du Fonds monétaire international sur la revue de programme avec le Niger. Après avoir rencontré autorités et acteurs du développement du Niger, le chef de la mission a laissé entendre que la croissance économique nigérienne devrait passer à 6,5% en 2019. Christophe Klingin est au micro de Habib Garba.
Nous pensons en tout cas que l'économie est en train de s'améliorer. Et au vu du travail que nous avons accompli au cours de ces deux dernières semaines, nous avons remarqué que la croissance économique est plus élevée que nous l'avions pensé. Donc la croissance économique est de 6,5% pour 2019 et 6% pour 2020. Cette croissance est essentiellement soutenue par des grands projets qui sont en cours, notamment le MCC. Il y a beaucoup de projets dans le cadre du MCC. Il y a le barrage de Kandaji, il y a la cimenterie. Et tous ces projets vont soutenir. Mais il n'en demeure pas moins que le Niger demeure un pays à faible revenu et il aura encore besoin de beaucoup, beaucoup de taux de croissance élevés pour être un pays pour son développement.
Les 5 arrondissements communaux de la ville de Zander sont confrontés à de multiples problèmes de fonctionnement, notamment l'eau, l'électricité et surtout le téléphone. Une situation qui a amené les maires et leurs adjoints à se constituer en comité pour dénoncer. Le porte-parole de ce comité, Elhaj Laminou Issa Kabra, maire du 3e arrondissement communal de Zander, interpelle qui de droit?
Nous avons eu à décrire, à faire même des points de presse, des déclarations. Nous avons même eu à écrire une lettre au président de la Halsia de l'époque. Tous les 5 arrondissements communaux ont des problèmes. Il y a tellement de problèmes qu'on ne peut même pas les énumérer. Ça fait plus de 5 ans et demi. On avait même pensé un moment à ça, collectivement, de démissionner. Et on a dit, ah ça, si on fait ça, on laisse même une porte ouverte à ceux qui veulent que ça soit ainsi. Mais vos corps restent pour qu'on arrive à gérer et à dénoncer certaines situations, parce que quand tu es à la touche, tu ne peux pas dénoncer. Il y a tous les problèmes liés à la gestion de la ville de Zender. Tous les arrondissements communaux ont beaucoup de soucis. Il y en a qui sont depuis longtemps coupés d'eau et d'électricité. Le téléphone, on n'en parle même pas. Aucun véhicule, aucun franc pour la dotation globale, qui est d'ailleurs une dépense obligatoire pour la ville. Moi, je ne sais même pas, les gens, qu'est-ce qu'ils font avec la loi.
À Agadez, une centaine de bras valides de 18 à 30 ans, tous ressortissants de la région de Zander, travaillent dur pour subvenir à leurs besoins au lieu d'opter pour la voie de la migration. Voici le reportage de notre correspondant à Agadez, Moussa Maman.
6 au quartier Katanga d'Agadez, l'atelier de fabrication des braseros regorge de jeunes très affairés. Chacun dans son coin s'exerce. Qui pour taper fort sur des fils de fer, qui pour les enrouler autour d'une barre de fer. Devant l'atelier somnolent d'autres jeunes. Ils ont passé plusieurs heures cherchant des pneus usés qu'ils brillent à la périphérie de la ville pour recueillir les fers utilisés pour la confection des braseros. Tassoumani, chef d'atelier, explique comment se fait ce travail. Il y a ceux qui partent acheter des pneus usés dans des garages ou chez des vulgarisateurs. Il y a ceux qui s'occupent de l'achat des barres de fer et aussi d'autres qui s'en chargent de brûler les pneus usés à une distance d'une heure et demie de marche à la périphérie de la ville. D'ailleurs, c'est la seule difficulté dans ce métier. Dans une journée, on peut fabriquer 50, 60 jusqu'à 100 braseros, dont la majorité, les plus grands, on utilise 9 barres de fer et on fait pour 7 aussi. C'est comme par exemple là où on prépare la sauce et les plats. On fabrique aussi celui qu'on prépare du thé. Et les derniers braseros, c'est celui qu'on fait dans son sang. En cette période de soudure, ces métiers constituent une issue heureuse pour ces jeunes. Beaucoup quittent leur foyer pour venir exercer ces métiers à Agadez, a affirmé Salisu Mahaman, chargé de la vente des produits finis. C'est dans ces métiers qu'on arrive à boire et à manger. Moi, je pars pour vendre au marché Est, Toll et même au quartier Dubaï. Nous vendons les petits et les grands. Et on vend en gros et à 750 francs, les petits à 350 et à 300 parfois. Pour celui d'un sens, à 200 francs par jour, on peut gagner 20 000 francs. Et parfois, on ne sort même pas pour la vente, car il y a des gens qui viennent de la brousse, de la commune de Tabelote, Ingab, à Derbyshire pour payer. Et ça, c'est tous les vendredis et samedis. Beaucoup d'entre nous, c'est avec ce métier qu'ils arrivent à prendre en charge leurs familles, parents, frères et sœurs. Et beaucoup femmes se sont enrichies dans ce travail. Et il y a même ceux qui se sont mariés dedans. Dès que la saison des pluies s'annonce, la plupart de ces jeunes retournent au bercail pour s'adonner aux travaux champêtres. Peut-on espérer endiguer le phénomène de la migration en observant tous les jeunes expulsés d'Algérie par ces métiers? Rien que cette année 2018, la région des Indes compte 77,93% des réfugiés d'Algérie.
Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.